Le retour vers le passé nous éclaire considérablement sur ce qui a été oublié, qui nous permet de comprendre un petit peu ce que liberté veut dire.
Le Front populaire et le cinéma.
La France n'est pas aux Français, car elle est à 200 familles.
La France n'est pas aux Français, car elle est à ceux qui la pillent.
Mesdames, messieurs, vous tous, jeunes, vieux, suivez-nous. Ces gens qui sont vos ennemis, nous allons vous les montrer. Les ennemis de votre pays, vous allez les voir évoluer. Camarades, regardez !
Les milieux, les associations qui préparaient le Front populaire dénonçaient la souveraine indifférence des lobbies patronaux. À l'opposé du côté des producteurs, on criait au loup. Alors que la France mettait sur le marché quelques 150 films en 1930, il n'y en avait plus que 110 cinq ans plus tard. Gaumont était mis en liquidation en 35, Pathé en faillite l'année suivante. Les exploitants se plaignaient de la diminution du nombre des spectateurs dans les banlieues appauvries par la grande crise. Il fallait les retenir en leur servant un boc et un casse-croûte. Les milieux et les associations qui prirent le pouvoir avec le Front populaire imaginèrent une autre organisation pour le secteur, mais le ministre en charge, Jean Zay, n'eut pas le temps de faire aboutir son projet de statut du cinéma, non plus qu'il n'eut le temps d'inaugurer le premier festival de Cannes. De la production d'ensemble des années 36-39, tout n'a pas été conservé. La création de l'association de la Cinémathèque était aussi une idée utile de 1936. Dans cette production, les films d'esprit Front populaire étaient loin d'être les plus nombreux. C'était aussi une haute époque des nanars, des films coloniaux, des comédies de Sacha Guitry. Il en sortait une par an, ce qui faisait dire au dialoguiste Henri Janson qu'à chaque fois, il avait envie de faire la révolution. L'histoire d'aujourd'hui sera donc celle d'une brève période faite de peu de films qui essayèrent de faire surgir la vraie vie de ceux que négligeait la grande machine cinématographique.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Avec Michel Marie, bonjour.
Bonjour.
Qui est à sa manière un grand tourneur. C'est-à-dire que Michel Marie, vous êtes allé promener les films de Jean Rouch et du groupe Varan au Brésil. Et là, à l'Assemblée nationale, vous allez présider une séance d'un colloque. C'est ce 8 juin consacré au cinéma du Front populaire. Et puis, vous allez mettre le nez à l'Arlequin, dans le 6e arrondissement de Paris. Un festival ciné et Front populaire. Et puis, vous avez jeté un œil au grand coffret de 3 DVD édités par Ciné Archives.
C'est ça, oui. La programmation de l'Arlequin est quand même assez modeste. Il y a une petite dizaine de films. Donc, c'est une période très très riche pour le cinéma français, entre 36 et 40. Donc, on peut retenir à peu près une centaine de films majeurs qui ont marqué cette époque.
Alors, nous, on va parler de ceux qui sont d'esprit Front populaire. Et un grand nom va surgir d'emblée, que vous connaissez très bien, c'est celui de Jean Renoir, qui est un individualiste de tempérament, mais qu'un moment a aimanté l'esprit Front populaire.
Oui, en effet, il y a une prise de conscience chez lui en termes politiques qui intervient à partir de son film Tony en 1934-35, donc qui est sur le milieu populaire des immigrés italiens dans le sud de la France, dans la région d'Aubagne. Alors il s'est toujours intéressé aux problèmes sociaux, comme dans La Chienne par exemple, ou dans ses films du début des années 30, mais Tony marque un tournant dans son œuvre.
Il est aimanté par sa femme aussi.
Oui, c'est ça. Donc, enfin, à l'époque, du cinéma muet, il était marié avec Catherine Lessling, et puis ensuite, donc, il a vécu avec Marguerite Houlet, qui était sa monteuse, qui était très engagée politiquement. Donc, c'était une militante syndicale, donc très proche du PC.
Il est aimanté aussi par ceux du groupe Octobre, qu'on va retrouver un peu partout à la manœuvre dans Le Crime de Monsieur Lange. Le groupe Octobre.
Voilà, c'est un groupe principalement animé par Jacques Prévert, mais qui comprend un très grand nombre d'animateurs, de militants comme Marcel Duhamel qui va créer la série noire et bien d'autres, beaucoup d'acteurs aussi comme Brunus, bon, et donc c'est un groupe de tendance un peu anarchiste, hein, que pas spécialement marxiste. Donc en fait le crime de Monsieur Lange, ça va être une rencontre entre Renoir et Prévert, qui est une rencontre assez exceptionnelle et qui va pas durer.
Alors le quin va être projeté, le crime de Monsieur Lange, dont voici un extrait. Alors je rappelle le projet des ouvriers qui travaillent bien à leur rythme, comme dirait Mélenchon, place de Stalingrad. Eh ben, il voit que le patron, il est plus que fantasque, il est quasiment escroc, et ils disent qu'ils ont le droit d'occuper la place à laquelle ils travaillent dignement, quel que soit le patron. Et voici l'affrontement.
C'est pourtant pas tellement compliqué, il s'agit de savoir si on sera payé.
Bouffer ou pas bouffer, là est la question.
Monsieur Meunier de Lille, principal créancier, doit venir lui-même aujourd'hui.
On s'en fout du principal créancier.
Moi, messieurs, j'ai une option.
Les établissements Flaconnet ont été odieusement filoutés, mais puisque j'ai une option...
Pardon, on me doit de l'argent. J'ai vendu du papier, n'est-ce pas? Il faut me payer. Il y a des machines ici, il y a qu'à les vendre.
Messieurs, je suis dirigeant employé et ouvrier, m'ont chargé de vous faire une proposition. Il s'agirait de fonder une sorte de coopérative constituée par le personnel.
Messieurs, le projet d'une coopérative ne me paraît pas satisfaisant.
Comment ça et pourquoi d'abord?
Je doute que M. Meunier de Lille, principal créancier...
Coopérative, très intéressant, tout à fait d'accord.
Monsieur Meunier, fils.
Fils, tu l'as dit, oui, papa m'a envoyé. Papa malade, le foie, il était vicieux le foie. Et papa avec. Alors il m'a envoyé pour régler l'affaire. Bonjour tout le monde, bonjour.
Salut.
Pour la coopérative, alors là, tout à fait d'accord.
Oui, monsieur Meunier, mais tout de même, moi, j'ai une option, n'est-ce pas?
Ah, grave, ça, faudra te tempérer, mon vieux. Mon cher Buisson, allez-y, continuez votre expo.
Et puisque monsieur Meunier n'est pas opposé à la création d'une coopérative, il n'y a pas besoin d'y discuter plus longtemps.
Permettez une seconde, j'ai quelque chose à vous dire.
Au juste,
une coopérative, qu'est-ce que c'est?
Alors peut-être les communistes qui vont jouer un rôle dominant dans l'histoire du cinéma du Front Populaire auraient-ils préféré les soviets ou, comme Jacques Duclos, la production d'État, mais l'idée dominante quand même, spontanée, anarchisante, allez-vous dire, Michel Marie, c'est celle de la coopérative qu'on retrouve dans les milieux du cinéma du Front Populaire à tous les étages.
Oui, en effet, surtout avec la création d'associations comme Ciné Liberté, qui veut mettre en commun des moyens de production pour des films. Alors, certes, le Parti communiste joue un rôle important dans cette coopérative, mais elle associe beaucoup de cinéastes, de techniciens qui veulent faire des films échappant aux règles du commerce banal de la période.
On peut s'arrêter un instant sur Ciné Liberté, où on retrouve le nom de Jean Renoir.
Oui.
Et puis celui d'Henri Janson, que je citais dans le chapeau, celui qui détestait Sacha Guitry. Ciné-Liberté, c'était aussi, je parlais de coopérative à tous les étages, un réseau qui permettait de voir des films.
Oui, c'était une forme de ciné-club. C'est-à-dire que il y a eu des ciné-clubs auparavant dans les années 20, mais qui étaient plutôt élitistes, qui étaient des ciné-clubs pour la grande bourgeoisie cultivée qui voulait promouvoir le cinéma artistique. Et à partir de fin des années 20, début des années 30, on a un mouvement de culture populaire, donc, et surtout la promotion de films étrangers, notamment la plupart des films soviétiques qui étaient interdits par la censure et qui sont projetés par des ciné-clubs, comme par exemple le ciné-club des Amis Spartacus. Et Ciné Liberté se situe dans cette généalogie des clubs de gauche.
Je ne veux pas faire de rapprochement avec aujourd'hui, mais François Ruffin, Merci Patron, il y a une diffusion militante un peu comparable.
Oui, en effet, oui.
Vous avez du mal à m'approuver.
Oui, je suis d'accord sur la. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les ciné-clubs qui ont joué ces rôles-là jusqu'aux années 60-70. Et après, malheureusement, ils ont été remplacés, ils ont disparu. Mais dans les années 20, et 30 surtout, c'était des ciné-clubs populaires.
La vie est à nous. C'est un film supervisé, toujours lui, par Jean Renoir. C'est une commande du Parti communiste. N'obtient pas le visa, n'est pas considéré par les structures d'exploitation comme un film commercial. Et il passe comme ça dans le circuit militant.
Oui, oui, bah c'est un film de propagande. Alors le mot propagande à l'époque n'était pas péjoratif. Hein. C'est un film commandé par un parti et produit par ses militants qui sert pour la campagne électorale des législatives de 36. Parce que à l'époque la télévision n'existait pas. Hein, donc,
le mot de propagande n'était pas honni et le mot de populiste d'ailleurs avait un sens positif à l'époque.
Oui, 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 il y avait même un prix du cinéma populiste, par exemple, ou des romanciers qui se réclamaient du mouvement populiste, comme Eugène David qui a écrit Hôtel du Nord.
Donc... Et il y avait un prix du roman populiste aussi, ouais. Henri Poulaille, en était le président du jury. Alors est-ce que c'est un film populiste, Le Temps des Cerises, dont on va entendre un extrait maintenant? En tout cas, le scénario est assez démonstratif, c'est l'histoire de deux jeunes hommes qui vont devenir vieux. Bon, le bourgeois, on le voit pas trop. Le jeune ouvrier Raveau, davantage. Et au moment où il va devenir vieux, se pose la question de sa retraite. Alors ce film, lui aussi, c'est une commande du Parti communiste, mais pas pour l'élection législative de 36, pour les élections cantonales de 1937, et puis dans la perspective de l'établissement, enfin, d'une retraite des vieux travailleurs.
Ceux qui sont assis sur les bancs, ceux qui ouvrent les portières, et ceux qui ne peuvent plus les ouvrir. Ceux qui vendent les journaux avec des voix qu'on n'entend plus. Ceux qui tirent, qui poussent des charrettes trop lourdes. Ceux qui ramassent les mégots. Et ceux qui chantent, et sans savoir chanter. Ceux qui font n'importe quoi. Ceux qui dorment n'importe où. Ceux de la misère nue, et ceux de la misère déguisée. Ils étaient venus tous ensemble, et ils savaient pourquoi ils étaient venus.
Les vieux seuls, les vieux avec leurs vieilles. Les vieux de la vie, les sans pension. Les sans-abri, les sans-pain, ceux de la soupe populaire, ceux qui vivent à force de ne pas mourir, tous ceux qui n'ont plus leur place au soleil, tous ceux dont le travail obscur a fait la grandeur et la prospérité de la France. Ils étaient là par milliers, dans des meetings innombrables, pour écouter la parole de ceux qui veulent aider les vieux. J'ai entendu les orateurs, j'ai entendu Jacques Duclos.
Et il y aura aussi dans le film Maurice Thorez, et puis, ça c'est une perfidie de l'histoire, une ruse de l'histoire, Marcel Giton, qui est à l'époque un leader du PC, mais que le PC assassinera en 1941, l'accusant de traîtrise et de collaboration. C'était une parenthèse. Ce film devenu vieux, il nécessitait une restauration, il avait même quasi disparu. Alors il est dans la projection du 9 juin à 18h au cinéma Arlequin à Paris.
Oui, c'est un film assez tardif dans la production autour du Front populaire. Donc il est sorti début 38, la production s'est éternisée au cours de l'année 37 et c'est un film d'une durée un peu spéciale, il fait 1h10 et donc il a eu une carrière il est sorti quand même en salle, contrairement à La Vie est à Loup, mais il n'a pas eu du tout de succès. Et il est passé dans des circuits militants, dans des ciné-clubs parce que il développe l'histoire de deux familles
De parallèle. Oui. Et qu'est-ce qu'était devenue la copie comment la tour restaurée encore aux archives du film?
Oui,
à
c'est
Bois
ça.
D'Arcy.
Oui. Ben, elle avait disparu et même le négatif a été détruit pendant l'occupation. Et il restait des copies positives après-guerre et à partir d'éléments. Mais même il a fallu qu'on retrouve des séquences dans des pays étrangers, donc pour reconstituer la totalité du film. Et les archives du film font un travail exceptionnel de restauration de toute cette production, parce que dans les années 30, on a produit 1300 films et il y en a plus de 1000 qui sont conservés. Hein. Et petit à petit, ils sont restaurés, on retire des copies neuves.
Merci aux archives du cinéma et puis aux archives du film et au Centre National de la Cinématographie et de l'Image Animée, c'est comme ça qu'il faut dire.
C'est ça, voilà.
Pour être tout à fait exact. Alors, à la copie de La Belle Équipe, dont on va parler maintenant, retour au cinéma commercial et industriel, il est arrivé pas mal d'aventures également. Alors, Duvivier, le réalisateur, lui, c'est un homme du système. C'est un homme extrêmement prolifique. Enfin, il fait du film religieux, il fait du film d'amour. Enfin, il est là présent chaque année, quand c'est pas deux fois par an.
Oui, il tourne presque deux films par an en moyenne. Donc, il a commencé à la fin du muet. Et surtout, il a fait beaucoup de films qui ont eu un très grand succès commercial. Mais c'était aussi un auteur. Hein. Il faut pas sous-estimer son œuvre. Donc, il a fait des films très personnels.
Et qu'est-ce qui l'attire, l'aimante dans l'esprit, Front populaire? Pourquoi tout d'un coup va-t-il changer un peu de braquet, lui qui avait fait un film sur Lourdes ou un autre sur Thérèse de Lisieux?
Bon, je pense que, enfin, ce qui l'intéressait, c'était le sujet d'écrire le milieu, par exemple, d'ouvriers chômeurs qui veulent créer une guinguette sur les bords de la Marne.
Attendez, là, vous brûlez les étapes parce que avant la guinguette, ils vivent à l'hôtel du roi d'Angleterre. Les
c'est
cinq
ça.
Copains.
Oui, oui, oui.
Non, formidable en fait... les séquences à l'hôtel du roi d'Angleterre, non?
Pardon?
Elles sont formidables les séquences à l'hôtel du roi d'Angleterre.
Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de films qui se passent dans des hôtels, dans des meublés comme ça, parce que c'était le lieu. De vie de la plupart des ouvriers dans les années 30. On voit ça dans beaucoup d'autres films, y compris dans Le Jour se lève de Carnet et Prévert. Donc, mais en fait, c'est un scénario de Charles Pack, la belle équipe. Hein. Donc, qui est aussi un très grand scénariste de cette période, qui a travaillé avec Renoir aussi pour La Grande Illusion et beaucoup d'autres films.
Avec le sens du dialogue aussi. Quand le propriétaire de l'hôtel veut chasser Jean Gabin, Jean Gabin lui répond « Je chôme, donc je reste ». C'est quand même une belle formule, non?
Très, très belle formule, oui. Spack était le rival de Henri Janson pour les mots bien placés.
Alors, vous nous disiez qu'ils avaient repéré une bicoque au bord de la Marne et qu'ils ont décidé de la transformer en guinguette coopérative. Ils vont travailler à la transformation de la ruine en un restaurant fort attirant.
Eh, où est la musique? Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison, on a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met à l'envers, et le bonheur nous souffle pour pas faire. Chagrin et peine, de la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche, au bord de l'eau, au trémolo, des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Raymond dit Tintin, a planté sur le toit de cette maison qui est la vôtre, le drapeau des travailleurs.
C'est Jean Gabin qui menait la barque au moment de la chanson si bien connue de la belle équipe. Jean Gabin qui était lui-même un ancien chanteur avant d'être un acteur.
C'est ça, oui. C'était avant de faire du cinéma, il était chanteur de musical et il a chanté avec Mistinguette, par exemple, au cours des années 20. Donc, et il était relativement connu, moins que Albert Préjean, mais quand même. Donc, donc il a continué à chanter dans quelques films et cette chanson écrite par Duvivier et un autre auteur a eu un succès énorme. Donc...
Alors dites-moi, la difficulté va surgir au moment même où le drapeau est planté. Celui qui le plante sur le toit va tomber du toit. Mario, le réfugié espagnol qui fait partie des cinq copains, il est expulsé. Mmh. Alors là, il y a un beau dialogue aussi, le gendarme lui dit « La terre est à tout le monde, mais pour un gendarme, la loi, c'est la loi. » Et puis il y en a un qui fait comme vous, qui fuit au Canada. Je dis ça parce que vous êtes parti une douzaine d'années au Canada aussi.
Non, pas tout à fait. Non.
Vous n'avez pas fui, vous avez enseigné. Oui.
Pas vraiment. Non.
Donc Jacques part pour le Québec, comme vous, vous êtes parti pour Montréal. Reste face à face Jean Gabin, donc, et Charles Vanel, et pour le malheur de tous, une femme, l'ex-femme de Vanel, Viviane Romance.
Oui, donc, en fait, Viviane Romance est presque un stéréotype du cinéma de cette période. Elle joue toujours le rôle de la femme maléfique, hein, ce qu'on appelait en langage populaire la garce à l'époque. Donc elle provoque sans arrêt des conflits entre les hommes et elle ruine l'amitié qui lie très fortement dans le projet de la guinguette Gabin, Jean et Charles, qui est Charles Vanel.
Un climat de haine va s'installer entre les deux.
Oui, puisque c'était la femme de Vanel, hein, donc, mais elle n'était pas du tout fidèle à son mari, donc, et Jean tombe amoureux de Viviane Romance, et ça tourne assez mal.
Mais là, on n'est pas dans l'esprit front populaire, on est dans l'esprit du mélodrame classique.
Oui, mais ce qui compte, c'est la description du groupe et de la collectivité. Donc, au départ, il y a 4 chômeurs, donc dont un émigré espagnol qui va être expulsé. Donc, les 4, ils gagnent un billet de la loterie nationale, oui. Et au lieu de,
c'est comme ça qu'on connaît le projet de Guinguette. Oui, mais alors on revient au moment où ça va tourner mal. Je reprends votre expression. Alors, est-ce que ça tourne vraiment mal ou est-ce que ça tourne pas trop mal? Alors, il y a une fin qui est proposée. On va dire que c'est une fin heureuse, qui n'est pas dramatique. On va y entendre d'ailleurs l'écho de la voix lointaine de Jacques qui, comme vous, est parti au Québec.
Allez, laisse pas faire, hein. Je suis avec toi.
Qu'est-ce que t'attends pour lui flanquer des gifles?
Oh, tu vois, il est jaloux.
Ah, doucement, c'est ma femme.
Quoi? Rappelle-toi, il y a des choses entre nous qui valent mieux qu'une femme.
Qu'est-ce que c'est?
Le Québec, Canada. En ce jour, Pâques, rêve enfin réalisé, consacre votre union et fraternelle amitié. Du fond exil, exprime tristesse mon absence. En attendant revenir prendre place parmi vous, suis près de vous, main dans la main, comme au premier jour, Jacques. Comme au premier jour, Charles.
T'as compris?
Alors t'as compris, c'est Vanel qui s'exprime, oui, et qui dit ça à la garce, à Gina. On va retrouver le climat initial, le grand projet fédérateur, parce qu'il y a des choses qui valent plus qu'une femme, l'amitié entre copains. Alors ça, c'est la fin qu'on a vue généralement dans beaucoup de cinémas français, qu'on a vue à la télé longtemps, jusqu'en 2006, mais qu'on ne va pas voir la projection de l'Arlequin, parce que c'est une autre version qui va l'emporter. Alors, c'est assez courant dans le cinéma américain qu'il y ait 2 versions avant le final cut qui est le fait du producteur. Dans le cinéma français, moins, non?
Oui, c'était un peu plus rare. Mais ça arrivait aussi. On faisait toujours des projections de presse. Par exemple, il y en a une pour l'Atalante et le producteur n'a pas du tout aimé le montage et il a demandé que le film soit remonté et même qu'on change la musique, la bande-son du film. Vous voyez.
Et ça, c'est une demande du producteur, c'est une projection de presse devant des professionnels. Il y a eu de même une projection devant des directeurs de salle pour La Belle Équipe et ce sont les directeurs de salle qui ont choisi cette fin heureuse. Mais Duvivier et son dialoguiste, Spack, eux, ils en voulaient une autre et ils se sont acharnés. Alors, l'autre, la fin plus dramatique, la voici. Écoutez bien, il va y avoir un coup de feu et de Vanel et de Gabin, il ne restera que la haine puisque l'un des deux va tuer l'autre.
Allez, laisse pas faire, hein. Je suis avec toi.
Qu'est-ce que t'attends pour lui flanquer des gifles?
Tu vois bien qu'il est jaloux.
Doucement, hein, c'est ma femme.
Ah, t'entends, hein?
Je vois clair dans ton jeu, moi.
Elle t'a repris, hein?
Elle ment pas, elle, comme toi.
Charles, prends garde.
J'ai tout compris. Ah, j'ai mis le temps. Imbécile que j'étais, ben. Tu voulais tout garder pour toi,
Charles.
Hein. Tu voulais rester tout seul.
Charles!
Rester tout seul et garder tout.
Mais dis un peu que c'est pas toi.
Ah, penses-tu qu'il osera? Un lâche! Un salon! Au secours! Au secours! Au secours!
Qu'est-ce que vous avez fait? C'était une belle idée. Où est Charles? Où est votre ami? C'était une belle idée. Une belle idée qu'on avait eue. Pourquoi vous avez fait ça? C'était trop beau pour réussir.
Peut-être. Il y en a qui ont de la chance. Et pas des autres. Allez, faut venir avec moi.
Bien sûr. Quand c'est fini, c'est fini. C'était une belle idée.
C'est Charpin, le gendarme, celui qui a toujours des formules définitives. Quand c'est fini. Le même qui disait « la loi, c'est la loi ». Ils tiennent beaucoup, Duvivier et Spack, à cette fin là qu'on vient d'entendre. Alors les directeurs de salles n'ont pas voulu. Alors ils organisent un référendum dans une salle de banlieue pour des spectateurs ordinaires. Et
oui, et le public populaire préfère la fin heureuse.
Ah le peuple ne ressemble pas toujours à ce qu'on imagine qu'il est.
Ouais. C'est-à-dire, en fait, c'est Duvivier qui était fasciné par les intrigues qui se terminaient très mal, de manière tragique, comme dans Pépé le Moko, pas mal de films de cette période-là. Donc, et d'ailleurs, Gabin, à l'époque, a très souvent des rôles avec une fin tragique. Mais l'enthousiasme et l'optimisme du Front populaire a joué un rôle sans doute déterminant dans le choix de la fin heureuse.
Oui,
voilà. Enfin, la fin heureuse contre la femme, parce que la femme est la garce et donc les deux copains se réconcilient sur son dos.
Alors, on a la version du Vivier dans le coffret de 3 DVD que propose Ciné Archive avec un bonus où Spack, le dialoguiste, s'explique. Je vous ai dit qu'on commençait avec Renoir, on va finir avec Renoir. Fin 1936, projet de Jean Renoir de tourner un film sur les fédérés marseillais qui montent à Paris en 1792 et qui vont faire connaître le chant La Marseillaise. Voici un extrait.
Allons-y. 2, 3.
Que veut cette bande d'esclaves?
Cette horde.
Oh, une bande, une horde. Je vois pas la différence. Enfin.
Allez, attention. 1, 2, 3.
Que veut cette horde d'esclaves? De rois, de tyrans conjugués.
Conjuré, test d'ail.
Oh, conjuré, conjugué. Tu vois, cette chanson, elle est pleine de mots qu'on ne peut pas prononcer. Et moi, je renonce.
Pour moi, c'est le grand film du Front populaire. C'est aussi un grand film d'histoire. Parce que ce n'est pas une grande machine. Ce sont les braves fédérés marseillais qui vont aux Tuileries. C'est par le prisme des fédérés marseillais qu'on voit les événements de la Révolution française.
Oui, enfin, c'est pas du tout une épopée traditionnelle comme par exemple les films d'Abel Gance ou les grands films historiques à gros budget. Mais c'est un film qui se déroule pendant 3 années. C'est une chronique des journées révolutionnaires. Et surtout, il n'y a pas de personnage principal. Donc, il y a une succession de paysans, d'ouvriers, de
tous traités avec une certaine empathie, presque même les immigrés, et en tout cas le roi Louis XVI, qui n'est pas du tout caricaturé.
Oui, ça c'est toujours l'option de Renoir, c'est de penser que tout le monde a ses raisons, et il déteste les films de propagande un peu caricaturaux, donc il représente en effet, il a donné même le rôle de Louis XVI à son propre frère, Pierre Renoir, et qui joue le rôle avec une très grande subtilité. Mais l'acteur qui joue le rôle de Jean-Joseph Baumier, qu'on vient d'entendre chanter la Marseillaise, était un acteur pas du tout connu, mais il est absolument extraordinaire de simplicité, de spontanéité, dirigé par Renoir.
Pour comprendre les gens, toujours choisir ce qu'il y a de plus haut en eux, et c'est ça qu'il faut montrer. C'est un film qui a été en partie commandé par le PC et aussi nourri par la souscription.
Oui. Enfin, c'est-à-dire, oui, il a été plutôt commandé par la CGT. Hein, et donc, il y a eu une souscription populaire où tous les spectateurs pouvaient acheter des bons pour aider à la production du film. Mais ça n'a pas suffi. Il y a eu une véritable production.
Mais c'est un bon système, le crowdfunding, comme on dit. Oui, c'est maintenant. Ça. On va remettre ça au goût du jour. Merci à vous, Michel Marle. On ne verra pas la Marseillaise dans le cycle de cinéma de l'Arlequin qui commence demain. On en parlera au colloque auquel vous participez à l'Assemblée nationale demain. Alors, chez Mathieu Vidard, qu'est-ce qu'il y a de beau, hein? J'aime bien le mot que vous utilisez là, Mathieu.
Humanité numérique, genre. Hein. Est-ce qu'on est en train de plonger dans une civilisation totalement immatérielle? On va poser la question à nos invités dans la Tête au carré dans un instant.
Franck Olivard, Mathias Léon à la technique et Jacques Sigal, c'était la réalisation de cette marche de l'histoire.